Vous écoutez Dutrisac, Cube Radio.
On parle beaucoup de liberté académique. Il y a un cas exemplaire à l'Université Concordia. Je vous invite à lire l'article d'Hélène Buzetti dans Le Nouvelliste. Je sais que c'est pas le Journal à Montréal, mais des fois, ailleurs, il s'écrit des bonnes affaires. Et là, c'est le cas. Hélène Buzetti est avec nous. Elle est analyste politique pour les coops de l'information à Ottawa. Hélène, bonjour.
Bonjour Benoît.
Ben bienvenue. Je me suis ennuyé de toi un petit peu là.
Mais
je
oui, dois, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé.
Cet article-là, il est vraiment très bon. Hélène, là, j'aimerais ça que Merci. Tu nous racontes ce qui se passe avec Jessica Bardill.
Alors, Jessica Bardill est une professeure qui a été embauchée des États-Unis, en passant, qui a été embauchée par l'Université Concordia en 2017 dans un poste d'assistante, et elle est devenue professeure associée, agrégée en 2020. Elle est une professeure en culture et en littérature autochtone canadienne. Mais le problème, c'est que depuis quelque temps, elle n'enseigne plus. Son courriel dit qu'elle est en congé pour une période indéterminée. L'université ne veut pas nous donner plus de détails, mais bon, selon ce que mes sources, ça serait depuis mars dernier qu'elle n'enseigne plus. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que on aurait découvert qu'elle n'est pas l'autochtone Cherokee qu'elle prétend être. Alors, ça, on aurait décidé de la suspendre, si on a bien compris. Et là, cette question-là serait en train d'être débattue. l'affaire, c'est que c'est sorti d'abord sur une espèce de chat obscur de sociologues de l'Université de Colombie-Britannique où il y avait un débat sur quelles sont ces personnes qui prétendent être des choses qu'ils ne sont pas, qu'elles ne sont pas. Et le nom de Mme Bardill a figuré sur ce chat là, que j'ai pu consulter. Et ce que je comprends, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ce forum serait venu aux oreilles de la direction de l'Université Concordia. Et donc, Mme Bardill voyant venir la tempête, aurait proactivement abordé la question de son identité avec la direction, ce qui aurait mené à sa suspension.
OK. Est-ce qu'il y avait des plaintes contre Mme Bardill là, comme prof? Là? Est-ce que c'était une incompétente?
Pas que je sache. En fait, vous comprendrez, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ouais. Vous comprendrez que l'université refuse absolument de donner tout détail, prétextant la vie privée de son enseignant, de son professeur, pardon. Madame Bardill non plus ne répond pas aux demandes d'entrevue. On présume qu'il y a comme un litige en ce moment et une des conditions, c'est qu'il n'aille pas sur la place publique. Mais il n'y a aucune indication qu'elle a fauté d'une quelconque manière. Là. C'est vraiment cette question de l'identité. Mais l'ironie, c'est qu'elle se spécialise dans ces questions d'identité autochtone. Donc, je vous disais, elle se présente comme une Cherokee. Là. Ça, c'est une nation qu'on retrouve notamment en Oklahoma. Et elle a signé beaucoup de recherches sur comment prouver l'identité, l'appartenance à une nation, notamment sur le fait que les tests d'ADN, les tests de sang ne peuvent pas nécessairement témoigner de tout en la matière, que les questions d'identification ou en tout cas d'appartenance sont peut-être à prendre aussi en considération. Alors,
mais là, Hélène, l'Université Concordia, là, si tu veux être prof en littérature autochtone, tu dois être autochtone.
Mais c'est ça l'affaire que j'ai oublié de préciser, qui est quand même assez important. Ouais. L'affichage pour le poste de 2017 que j'ai pu consulter ne précise à aucun endroit qu'il faut être autochtone pour obtenir ce poste. Alors, la question se pose, est-ce que Mme Bardill s'est présentée comme une autochtone pour mousser sa candidature, ce qui aurait été pour avoir la job, ce serait alors mal représenté, mais comme ce n'était pas un critère d'embauche, on peut se poser la question, est-ce que lors de l'entrevue, on lui a posé la question ou est-ce que on a juste fait semblant de ne pas en parler, mais en gardant un a priori favorable parce que on avait vu son auto-identification sur le web et qu'elle ne les a pas détrompés, si vous voulez. Alors, la question est là, est-ce qu'on peut vraiment congédier quelqu'un parce qu'elle n'est pas autochtone, alors que ce n'était pas un prérequis pour le poste. J'imagine, par contre, que l'université pourrait toujours dire, ouais, mais le problème, c'est pas tant qu'elle n'est pas autochtone que le fait qu'elle a menti sur son identité, voyez. Donc, ça, il y a une sorte de sortie possible.
En même temps, Hélène, là c'est rendu qu'il y a personne qui peut enseigner la littérature autochtone si on n'est pas autochtone. Les critères d'embauche, là, il y a d'autres exemples. Là. Il y en a un paquet. Là, on parle de liberté académique, de censure, mais l'annulation en 2015 d'un cours de yoga de l'Université d'Ottawa par une blanche au motif qu'il consistait en de l'appropriation culturelle. Sacramouille, un cours de yoga, Hélène, là, c'est rendu...
Ça avait été extraordinaire, cette histoire-là, puis je le raconte dans le texte, c'est que elle était blanche, puis finalement, on a ramené le cours en catimini quand on a pu trouver une enseignante qui avait un nom, un beau nom à consonance indienne. Le problème, c'est que cette femme qui arrivait tout droit d'Alberta était née en Calgary. Elle avait pas... Oui, elle avait des racines indiennes, mais comme moi, tu sais, j'ai un nom italien, mais je ne viens pas de là-bas. Et donc, quand elle avait réalisé pourquoi elle avait été embauchée, elle avait dit publiquement, ben moi, je m'interroge, est-ce qu'on m'a embauchée juste parce que j'ai des racines indiennes? J'ai jamais pensé que parce que j'avais ces racines-là, je suis une meilleure prof qu'une autre personne. Et c'est ça aussi le problème de ces questions identitaires. C'est que ça fait peser un doute sur la compétence de ces personnes-là. Parce que là, tout d'un coup, on se pose la question, est-ce qu'elle a vraiment eu le poste parce qu'elle est bonne ou seulement parce qu'elle est autochtone, parce qu'elle est, avec des guillemets, racisée? Alors, c'est aussi dur pour ces personnes-là aussi d'en arriver à un système comme celui-là.
Ça passe avant la compétence. Là, tu poses la question, justement, là, aujourd'hui à Concordia, comme alors à Ottawa, on se retrouve dans une situation où une personne, par ailleurs compétente, se fait confisquer, puis j'aime ce verbe-là, là, confisquer son poste parce qu'elle n'est pas de la bonne race. Mais c'est du racisme à l'envers.
Ben on peut en arriver à cette conclusion-là totalement. Puis comme je te dis, je suis certaine que l'université va prendre cette porte de sortie, dire non, c'est pas pour ça qu'on fait ça, c'est parce qu'elle a menti. Mais on peut se poser la question, le fait de ne pas se dire de la bonne ethnicité, est-ce que c'est une raison valable de congédiement? La question elle se pose, oui, OK, peut-être que c'est un mensonge, mais est-ce que c'est important comme mensonge? Mais dans un cas de professeur qui parle de littérature autochtone, est-ce que ça devient une raison valable?
Et depuis quand, Hélène, depuis quand des critères d'embauche contiennent aussi des références raciales?
Mais il y a aussi toute cette idée de vouloir réparer, de rééquilibrer. Monsieur Facal parlait cette semaine, dans une autre chronique, de certains postes dans les universités qui ont été ouverts pour spécifiquement des personnes autochtones ou des personnes, je le mets en guillemets, racisées. Ce qu'on nous explique, c'est aussi que ça vient d'Ottawa. Par exemple, les chaires de recherche du Canada, c'est un gros programme financé par Ottawa pour des postes de professeurs dans des sujets de pointe. Et il y a comme des quotas, appelons ça comme ça, une certaine quantité de personnes, des femmes, des personnes avec des handicaps, des personnes racisées, etc. Et là, chaque université a son quota de chaires et doit respecter un certain quota pour respecter les quotas fédéraux. Donc, à un moment donné, quand l'université, il lui reste juste quelques chaires, puis elle réalise qu'elle n'a pas atteint les cibles, ben là, c'est là qu'il va arriver ces postes dont parlait M. Facal, où on va dire, ben là, c'est réservé à une personne de telle catégorie.
C'est grave, là. C'est grave ce qui arrive, là. T'sais, puis c'est pas dans ton texte, Hélène Buzetti, mais t'sais, la référence de Catherine Russell, là, une prof de cinéma à Concordia, qui projette un film de Pierre Vallière, et qui dit, ben, en 1968, il a publié un ouvrage, Les Nègres Blancs d'Amérique. Et là, elle se fait ramasser, Catherine Russell. Mais cette campagne, là, il y a une commission là, sur la liberté académique. Là, il y a des moments où faut remettre tout ça en question. Mais dans les universités anglophones à Montréal, c'est pire que pire.
Ben oui, puis Concordia est probablement, moi, comme je disais, c'est une succursale un peu montréalaise de cette idéologie qui nous vient beaucoup des États-Unis, hein, il faut le comprendre. Le fait que Concordia est une université qui a toujours beaucoup parlé de questions diversitaires. Moi, j'ai fréquenté cette université dans les années 90, à une époque où on parlait à peine de l'homosexualité dans la société. Et il y avait déjà un journal qui s'intitulait Queer. C'était très, très fort là-bas. Le fait qu'on parle en anglais, évidemment, le fait qu'il y ait beaucoup plus de place aussi sciences sociales dans cette université, ça a fait une autoroute, si vous voulez, pour importer ces idées américaines. Donc, c'est vraiment une pépinière montréalaise, là, Concordia, là, pour les idées beaucoup plus, certains diront avant-gardistes, d'autres diront radicales, sur ces questions identitaires. Là. Ouais. Concordia, c'est vraiment la place où ça se passe.
Mais c'est troublant, là. Tu sais, le sondage, tu as vu, Hélène, mené cet été par la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique. Mmh. 60% des profs d'université reconnaissent s'être censurés en évitant d'utiliser certains mots. Mais comment veux-tu enseigner, par exemple, le racisme dans le sud des États-Unis, le lynchage, si tu décris pas ce qui se passait là?
Ouais, et puis il faut toujours faire la distinction entre le mot utilisé pour blesser et le mot utilisé comme un objet d'étude, un objet de discussion. Puis ça, cette distinction-là, là, elle se perd beaucoup. Mais tu sais, tu parles de liberté académique, mais c'est aussi que Ottawa imprègne beaucoup cette logique. Tu sais, Monsieur Facal en a parlé, j'en parlais aujourd'hui. Les déclarations EDI, là, équité, diversité et inclusion, voilà, excusez. Donc, tous les chercheurs universitaires qui font des demandes de subventions au conseil subventionnaire fédéraux, ce sont de grosses machines qui pompent des centaines de millions de dollars en recherche, doivent, dans leur projet de recherche, avoir une déclaration EDI, c'est-à-dire déclarer comment ils feront pour aplanir les discriminations envers les groupes des femmes, les diversités sexuelles, les personnes racialisées, etc. Mais ces déclarations-là, maintenant, là, j'en ai lu une, là, un projet de recherche, là, en optique, il y avait 5 pages de description du projet scientifique, puis il y avait 4 pages de description de déclaration sur l'équité. C'est quand même fou, là. Le professeur passe presque autant de temps à expliquer comment il va faire pour inclure tout le monde qu'à expliquer comment il va faire avancer la science en photonique, par exemple. Et ça modèle les esprits de tout le monde. Puis il y en a plein qui, loin des caméras, vont dire c'est de la bullshit, on écrit n'importe quoi. Ouais. Mais il faut avoir l'air d'être impliqué. Puis bon, comme M. Facal le disait cette semaine, là, tu sais, quelqu'un qui est d'origine indienne, qui s'est fait refuser des subventions parce que lui, il disait, ben moi, j'embauche juste des gens sur la base de leurs compétences, je me fous de leur race.
quelle horreur!
Ça, là, ça imprègne le système. Puis comme je vous dis, les conseils subventionnaires, là, c'est des centaines de millions de dollars. Là, fait que ça a un effet très réel dans toutes nos universités. Hmm.
À lire dans le Nouvelle Liste, Hélène Buzetti, analyste politique pour les coop de l'information Ottawa. Gros merci, Hélène, et j'espère qu'il y aura un suivi à cet article-là qui est vraiment, vraiment éclairant. Merci,
ça
Hélène.
Ça me fait plaisir, Benoît.
Salut.